Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 1er novembre 2022. Déjà hier, je vous disais que l'on allait devoir patienter et je crois que c'est pas encore terminé. Lorsque l'on se plonge dans les médias financiers de la journée d'hier et de la nuit qui se termine, on se rend compte que tout le monde est sorti pour donner son avis sur la suite. Il est d'ailleurs assez intéressant de noter que les avis sont tranchés. C'est soit on va s'en prendre une parce que Powell ne veut pas adoucir son discours, soit on va exploser parce que justement Powell adoucit son discours. Et dès qu'on aura eu ce qu'on veut, on va se concentrer sur les chiffres de l'emploi pour voir si Powell a eu raison ou pas. Et c'est d'ailleurs là que ça pourrait coincer, et très exactement là où c'est compliqué de se positionner aujourd'hui. Tout d'abord, il faut noter que les marchés viennent de finir un relativement bon mois d'octobre et que c'est assez rare pour être signalé. Le Dow Jones termine en hausse de plus de 14% et ça n'était plus arrivé depuis 46 ans. En Europe, c'est pareil, on ne s'en sort pas trop mal malgré une inflation de 10,7% dans la zone euro. On notera d'ailleurs que c'est complètement rentré dans les mœurs et que ça ne fait plus peur à personne. Néanmoins, le problème qui se pose à la Fed et à nous autres investisseurs du même coup, c'est que la décision qui sera prise mercredi aura un double tiroir. Dans les deux cas, que Powell se montre arrangeant ou qu'il se montre agressif, en effet, juste après la Fed, il y aura les chiffres de l'emploi qui seront publiés et la semaine prochaine, les chiffres de l'inflation pour octobre. Ce qui revient à dire que c'est une décision qui se jouera à pile ou face. Dans le cas où Powell se détend, si les chiffres de l'emploi et le CPI montrent que l'économie est en forme et que ça ne ralentit pas, il va se faire fusillé par la critique parce qu'il s'est détendu trop tôt, et l'inverse est valable aussi. La logique voudrait donc que, compte tenu de ce qu'il nous a dit ces derniers temps, il ne change pas trop son discours en attendant que les chiffres confirment que les choses se calment. Non, parce qu'imaginez 5 minutes que le gars vienne nous dire qu'il envisage le pivot et qu'à l'avenir, il montera peut-être les taux, mais moins, et que dans la foulée, les non-farm payroll nous annoncent 300 000 créations d'emplois au lieu de 200 000 attendus, ça serait quand même ballot. Dans le doute, tout le monde est en train de brasser de l'air et de donner des conseils à la Fed. Ce qui est bien parce que l'on essaye au moins de faire quelque chose. La seule différence entre le monde des experts en finance qui n'ont rien vu venir et qui sont juste une fois sur deux et les gens de la Fed, c'est qu'avec la Fed, personne ne va leur pardonner s'ils se trompent. Et en plus, il est plus qu'évident que si Powell ne pivote pas cette semaine et que dans les 10 jours qui suivent, on se rend compte que l'emploi est en chute libre et que l'inflation se pète la figure, tout le monde va lui tomber dessus. Alors que du côté des analystes, stratégistes, économistes et spécialistes des techniques vaudou adaptées à la finance, ils en aura tout oublié ce qu'ils ont baragouiné dans 3 jours. Alors pendant ce temps, Powell sera cloué au pilori et on le rendra responsable de tous les maux de la planète. À la limite, la guerre en Ukraine, ça sera de sa faute. Mais pendant ce temps, nous avons un stratège de chez Morgan Stanley qui estime que la Fed va nous donner ce que l'on veut et que le marché va reprendre 6%, très précis. Et puis il y a Blankfein chez Goldman qui pense qu'il y a plein de bonnes nouvelles qui peuvent encore nous tomber dessus et faire monter les indices bien plus haut. Il n'a pas mentionné le fait qu'il y avait aussi plein de mauvaises nouvelles qui peuvent nous tomber dessus. Et après, il y a encore Larry Summers, l'ancien secrétaire du Trésor américain, qui pense que la Fed doit rester en ligne avec sa stratégie mise en place et ne pas tourner la veste trop tôt. Selon lui, la partie n'est pas encore gagnée et il ne faut pas se précipiter. Et la liste des opinions, diverses et variées, est encore longue, sauf que personne n'en sait rien et que l'on aura nos réponses demain soir. Et puis c'est tout. En attendant que ça se décante, on a donc droit à beaucoup de vent et pas grand chose, et il va falloir patienter encore. Pendant ce temps, il se passe 2 ou 3 choses qui nous occupent, mais pas franchement que du passionnant. Quoi que l'on se dise ou quoi que l'on se raconte, on revient toujours à la Fed de demain, mais en attendant, on a quand même des déclarations intéressantes comme Jim Chanos, célèbre short-seller qui pense que la valorisation de Tesla est complètement délirante et que c'est pratiquement impossible à justifier. Sans compter que pendant ce temps, Elon Musk se fait mousser chez Twitter environ la totalité du board et en se nommant lui-même directeur général de l'Oiseau Bleu, ce qui est une trop grande distraction pour l'avenir selon Chanos. On a aussi beaucoup parlé de l'inflation en Europe. Comme je le disais plus tôt, eh bien, plus haut. Tout le monde s'en fout. Hein. C'est assez impressionnant. La zone euro nous annonce 10,7% au-dessus des attentes des experts. 10,7% au-dessus des attentes. Et ça ne fait ni chaud ni froid à personne. Il faut dire qu'on a quand même eu droit aux déclarations passionnantes de M. Klaus Knot, président de la Banque centrale des Pays-Bas qui a déclaré que la BCE pourrait encore monter les taux de 0,5 ou de 0,75% en décembre. Mais ce qui était surtout fantastique, c'est le discours et la vision qu'il a exposé à la télé. Il faut le lire pour le croire. Nous ne sommes pas encore à la mi-temps de la lutte contre l'inflation. Nous sommes encore en train de faire revenir les taux d'intérêt à leur niveau neutre. Ce pourquoi nous aurons encore besoin de la réunion de décembre. À partir de 2023, nous jouerons la seconde mi-temps en relevant les taux d'intérêt de façon plus modeste et en réduisant notre bilan. Ensuite, nous serons dans la zone où nous refroidirons efficacement l'économie, ce qui est nécessaire pour ramener l'inflation de 10 à 2% dans les 18 ou 24 prochains mois. Quand tu dis ça, tu te demandes si en plus le gars il va pas te filer les bons numéros pour l'euro million de la semaine prochaine et le tiercé dans l'ordre pour les 6 prochains mois. Donc si j'ai bien compris, les banquiers centraux n'ont absolument rien vu venir en termes d'inflation et maintenant que l'on se la prend en pleine figure à 200 km à l'heure, le mec vient nous expliquer exactement ce qu'ils vont faire au fur et à mesure pour contrer l'inflation d'une main, monter les taux de l'autre et ajuster le tout en jouant du pipeau. Ces banquiers centraux, c'est des hommes orchestres. Et le pire, c'est que tout le monde les écoute et leur donne du crédit. On peut donc résumer en disant que l'inflation est en train de nous exploser à la figure, mais que l'on se rassure, il y a des gars qui ont fait des études et qui savent mieux que nous comment gérer tout ça. Reste à aller se poser sur une terrasse et fumer le cigare en attendant qu'ils règlent tous les problèmes. Ce matin, l'Asie est globalement en hausse. Un peu partout, Hong Kong remporte la palme de la performance du jour avec une hausse de plus de 3%, pendant que les autres marchés ne font pas grand-chose en comparaison. Le Nikkei est en hausse de 0,2% et la Chine progresse de 0,8%. Pour les autres asset classes, on retiendra que le pétrole fait des hauts et des bas en fonction des déclarations des uns et des autres. Quand c'est Biden qui parle, ça baisse, et quand c'est l'OPEP qui parle, ça monte. Actuellement, le brut est à 87,10. C'est la dernière tentative du président américain pour faire baisser semble avoir été voué à l'échec. Il faut retenir que Biden a fait un bref discours hier pour s'en prendre aux pétrolières à qui il reproche de ne pas privilégier la baisse des prix à la pompe plutôt que les dividendes de ses actionnaires. Il a également déclaré que les pétrolières profitaient de la guerre. Et le président tente toujours de faire baisser le baril à l'aube des élections. Hier, dans son discours, il a menacé les pétrolières d'une taxe exceptionnelle. Mais les experts ont déjà annoncé que c'était mission impossible parce que le Congrès ne le suivrait jamais dans cette histoire. Trop d'intérêts en jeu. Et comme la plupart des membres du Congrès sont actionnaires des majors pétrolières, en fait, les dividendes qui augmentent, ça leur va assez bien. Pour le reste, l'or est à 1639 et le Bitcoin refuse toujours les 21 000 $ et se traite à 20 480 ce matin. Dans les nouvelles du jour, on notera que Wynn Resort, les casinos, étaient en forte hausse après l'annonce de l'arrivée d'un nouvel investisseur qui prenait 6% du capital. Il y a aussi ON Semiconductor qui a publié des chiffres au-dessus des attentes, mais les perspectives sont mauvaises, comme tout le secteur d'ailleurs. Le titre perdait 9% sur l'annonce. Autrement, l'Australie a monté les taux à 0,25. Le blé prend l'ascenseur parce que les Russes ne veulent pas laisser sortir les cargos d'Ukraine comme prévu. Aujourd'hui, on repart dans les grosses publications. Il y aura Uber qui sera de sortie, ainsi qu'AMD concernant le rallye actuel. Jim Cramer de CNBC pense que selon les charts, il y a encore du potentiel à la hausse. Et puis, il y avait aussi Foxconn en Chine qui a été victime de la découverte de cas Covid qui a précipité la fermeture de l'usine. Foxconn, c'est le sous-traitant d'Apple pour les iPhones. Les Chinois, ont également fermé le parc Disney à Shanghai et empêché les gens de sortir tant qu'ils n'avaient pas fait un test Covid négatif. On nage en plein délire, si l'on en doutait encore. Pour le reste, nous sommes le 1er novembre et nous aurons le FOMC meeting qui commencera aujourd'hui avec une réponse demain. Mais il y aura aussi le sentiment du consommateur en Suisse, le Redbook, les Jolts et le PMI manufacturier aux States. Le PEP se réunira également et en plus d'Uber et d'AMD, nous aurons aussi les chiffres de Pfizer, BP, Philips 66 ou encore Airbnb. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,35% et on joue le discours de demain à pile ou face. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et on se revoit demain pour attendre mercredi soir tous ensemble et avoir enfin du concret jeudi matin. Excellente journée et à demain.